comme moi, inquiets de savoir où tout ça allait s'en aller, ou inquiets d'une possible défaite, les poussaient à des compromis. Mais la direction de la classe a pu résister. Pourquoi? Parce que, finalement, ils n'avaient pas ce poids-là à porter seuls. Ils devaient s'en remettre à leur base, et leur base venait constamment les rappeler à l'objectif initial.
Ce qu'on dit et ce qu'on voit, c'est que c'est la fin du consensus. Le Québec égale consensus,
oui,
hein, égale
fini.
Le pays tranquille, le pays gentil, le pays un peu amorphe. Et la scène française est toujours citée comme l'exemple de la guerre civile.
Permanente.
Voilà. Là, maintenant, c'est la fin du consensus. Ou bien est-ce que c'est provisoire? C'est une parenthèse.
En tout cas, ça me soulage parce que moi, je suis toujours nostalgique de cette idée de la France, qui ne se vérifie pas toujours d'ailleurs. Mais là, je vois que je n'ai plus besoin de m'en remettre à la France. Le Québec est là pour soulager cette nostalgie. Mais ceci étant dit, ça se prépare depuis un certain temps. Dans la vallée du Saint-Laurent, il y a une véritable révolte entre, disons, août 2010 et printemps 2011, où la vallée du Saint-Laurent, littéralement, s'était enflammée alentour de l'exploitation des gaz de schiste, où donc le petit peuple, malgré le fait que l'industrie gazière et pétrolière, qui est pourtant un des lobbies les plus puissants en Amérique, hein, souvenez-vous, c'est un lobby qui met des présidents à la tête des États-Unis et des premiers ministres à la tête du Canada. Ce lobby-là, qui avait ouvert la bouche toute grande pour croquer dans les gaz de schiste au Québec depuis 2006, avec toute une série de manigances et d'arrangements législatifs avec l'Hydro-Québec qui leur a vendu le droit d'exploitation de tout ça, avait grand ouvert la bouche pour croquer dans nos ressources. Mais le peuple de la vallée du Saint-Laurent au Québec, par une contestation largement appuyée par les artistes et des groupes populaires, ont réussi à mettre à genoux l'industrie pétrolière et gazière au Québec. Ce qui est... Bon, donc ça se prépare, ce trame, de cette manière depuis des années. Cette rupture avec les vieilles formes d'organisation, les vieilles,
domination
dans l'organisation des contestations. Et donc, c'est des mouvements citoyens spontanés ou le mouvement étudiant qui est en marge du mouvement institutionnel contestataire qui ont réussi à capter, je dirais, le plus combatif et le plus vibrant du ras-le-bol de la population qui, comme une braise, était là en arrière-plan contre le ras-le-bol, contre les politiques d'austérité du gouvernement et contre le néolibéralisme. Mais c'est sûr que le Québec, au lendemain de ce mouvement étudiant, ne se ressemblera plus. On ne reconnaîtra plus la scène politique québécoise. Dans quel sens, je ne sais pas, mais on ne le reconnaîtra plus. Toutes les données préexistantes vont changer.
Parce que les gens se sont repolitisés à l'occasion de cette mobilisation.
Écoutez, 3 mois d'université intensif de la politique, où les gens ont débattu jusqu'à la gratuité de l'accès à l'université. Donc, c'est une réappropriation de l'histoire, des grands projets collectifs qui avaient une certaine époque. Puis, c'est surtout une université de la politique.
C'est la naissance d'une génération politique à
Absolument,
tous les coups.
Absolument, évident.
Le salon du plan Nord que nous allons ouvrir aujourd'hui est déjà très populaire, les gens courent partout pour entrer. C'est une occasion notamment pour les chercheurs d'emploi. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi. Ça, avouons, c'est d'un cynisme qu'on aura rarement vu en politique québécoise.
Vive le Québec libre!
L'éducation, évidemment, c'est la base de tout.
Alors, Éric Martin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, certainement. Éric Martin, professeur de philosophie au Collège Édouard Montpetit. Co-auteur avec Maxime Ouellet du livre Université Inc., chercheur à l'Institut de recherche d'information socio-économique.
Et là, on se retrouve à Hochelaga, dans un quartier pauvre, modeste en tout cas, de Montréal. C'est pas l'image du tout de Montréal ni du Québec. Hein. Pour nous, du côté français, il n'y a pas... Bon, bien sûr, on se doute bien, mais enfin, il n'y a pas vraiment des pauvres ici, ça va bien, c'est un pays aisé. Parlons un petit peu déjà du quartier, Éric.
Ouais. C'est sûr que le Québec, c'est un pays où les inégalités sociales sont relativement bon, minées, mais il y en a quand même. Mais il y a quand même des poches de pauvreté qui existent et qu'on ne voit pas dans les circuits touristiques et dans l'aspect extérieur, parce que il y a toute une série de gens qui ont été largués au fil des années par des réformes de politique sociale, par la désindustrialisation, et qui vivent dans les quartiers résidentiels traditionnellement francophones, ouvriers, soit dans l'Est, soit dans le sud-ouest de la ville.